Et au menu de notre club des Têtes au Carré cet après-midi, une expédition en Antarctique, un MOOC sur les origines de l'homme, une nouvelle revue scientifique et un explorateur de la vie. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, on va essayer de ressusciter des espèces disparues. Axel Villard nous rejoindra dans un instant pour nous dire que les candidats sont nombreux. Mammouth, dodo, pigeon migrateur, diable de Tasmanie. Les avancées de la science permettraient aujourd'hui de les faire renaître et certains sont même prêts à le faire. Mais pour quelle bonne raison? On posera la question au paléogénéticien Régis de Bruyne. Stéphanie Texier est aux commandes de ce club qui a été préparé par Chantal Le Montagnier avec Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc avec des explorateurs, les origines de l'homme et un carnet de science cet après-midi avec mes invités Catherine Jessu et Mathieu Raveau pour commencer. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler d'une nouvelle revue scientifique destinée au grand public. Il s'agit du carnet de science du CNRS. Mathieu Raveau et Catherine Jessu, le papier a donc encore de l'avenir ? Mathieu Raveau.
Oui, on y croit encore beaucoup au papier. Carnet de science, c'est une revue d'information scientifique qui est donc en vente en librairie et dans les relais. C'est une revue de 200 pages, très illustrée, avec des articles longs, des reportages photos aussi. Et notre but, c'est de montrer les coulisses de la recherche et de proposer un éclairage de fond sur les grands enjeux scientifiques et les questions de société.
Et c'est donc le premier numéro, Catherine Jessu, et vous avez signé un long article sur le monde vivant, la biologie, qui est votre
Absolument.
Domaine.
Absolument, sur la biologie. Donc, elle est à l'honneur dans cette première édition des carnets de sciences. Je peux expliquer pourquoi.
On va en discuter tout à l'heure ensemble.
On en discutera ensemble, oui, voilà.
Puisque vous avez signé donc cet article sur le siècle du vivant et les incroyables découvertes dans le domaine de la biologie. Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur, bien sûr, on ne vous présente plus. Et ce livre qui arrive, Inventer sa vie, aux éditions Le Passeur. Alors, c'est un abécédaire intime autour des mots qui résonnent dans votre parcours. Alors, je pourrais prendre l'Antarctique, par exemple, à tout hasard.
Oui, Antarctique, mais aussi inventer sa vie. C'est un message, vu mon parcours, qui est assez original, on va dire. Ce qui m'intéresse, c'est de donner l'envie aux autres d'inventer leur vie. En fait, parce qu'on a des potentiels qu'on ignore de soi et c'est intéressant de les mettre à l'œuvre, quoi.
Ouais, Antarctique, c'était juste pour faire une transition très malhabile hein, avec notre invité suivant. Ce sera
je rebondis si vous volontiez sur l'Antarctique.
Il s'apprêtera à traverser 1300 km sur le continent blanc, Vincent Favier, pour effectuer des mesures glaciologiques à long terme et il sera avec nous en ligne dans quelques instants. Christophe Alguer, bonjour.
Bonjour.
Vous lancez avec le Musée de l'Homme et le Muséum National d'Histoire Naturelle un cours en ligne gratuit sur les origines de l'homme. Ça s'appelle un MOOC et 6 cours sont prévus et c'est déjà un énorme succès. Hein. La classe s'agrandit de jour en jour quasiment.
Oui, oui. Aujourd'hui, il y a près de 10 000 inscrits, plus de 10 000 inscrits. Et donc, c'est un succès pour le début. C'est un MOOC qui va s'étaler sur 3 mois.
C'est ça.
Et avec 6 séquences dont je pourrais vous reparler tout à l'heure.
Et on peut entrer dans la salle de classe quand bon nous semble.
Voilà, ça.
C'est le principe du MOOC.
Exactement.
On se retrouve dans un instant pour en parler. Je signale aux auditeurs que l'émission étant aujourd'hui enregistrée, on ne pourra pas recevoir vos messages. Comme d'habitude. Et si l'extinction des mammouths était un jour une histoire ancienne?
Pendant plus d'un million d'années, les mammouths ont régné sur l'Amérique du Nord. Les plus grands mammifères de ce continent avaient résisté aux pires glaciations et aux pires sécheresses. Pourtant, il y a 13 000 ans, les mammouths ont disparu.
Et tous les éléments sont aujourd'hui entre les mains des scientifiques pour réussir à ramener à la vie des espèces anciennement ou récemment disparues. La revue Science consacre d'ailleurs un dossier complet à cette expérience qui fait débat. Est-elle envisageable ou même défendable? Quelle espèce réanimer si jamais on se lançait dans l'aventure? Bonjour Régis de Bruyne.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Est-ce que beaucoup de laboratoires dans le monde sont dans les starting blocks pour tenter de recréer des espèces disparues?
Alors dans les starting blocks, même plus pour certains, parce qu'il y en a certains déjà qui ont pris le train il y a quelques années. Ça a commencé, ces histoires de désextinction, au début des années 2010 finalement.
Vous parlez de désextinction, hein, c'est ça, j'ai bien entendu.
Oui,
hein.
On va dire que c'est le terme, alors je sais pas s'il est consacré, je pense qu'il a été consacré par personne, mais on va dire que les Américains appellent ça la de-extinction, mais on n'a pas d'équivalent en français, alors on les suit là-dessus. C'est pas très agréable comme terme, ça veut pas dire grand-chose, effectivement. En tout cas, ça a pris de l'ampleur, cette thématique, effectivement, avec la mise en avant de nouvelles techniques, notamment une technique dont vous parlez souvent sur votre antenne, ce qui a ce nom assez insupportable de CRISPR-Cas9, oui. Cette espèce de bistouri moléculaire qui permet de venir travailler au niveau du génome de façon très fine et de venir substituer des gènes à d'autres gènes pour vraiment jouer aux apprentis sorciers au niveau du génome.
Ce sont les ciseaux moléculaires qui permettent de couper directement dans l'ADN, c'est ça en gros?
C'est ça exactement. Et contrairement aux ciseaux qu'on utilisait jusqu'à présent, ces ciseaux-là, ils sont précis. C'est-à-dire qu'on peut les diriger de façon ciblée, alors que jusque-là, on avait des outils qui, certes, permettaient de couper, de réarranger des morceaux de génome, mais sans qu'on ait vraiment la maîtrise de ce qu'on faisait.
C'est vraiment le mammouth, le candidat numéro un à ce type d'expérience?
Oui, parce que c'est comme pour la production de son génome, d'une certaine façon, le mammouth, il sert de porte-étendard à tous ses travaux, en fait. Peut-être que c'est pour les chercheurs qui sont intéressés aussi un moyen plus pratique et de récupérer des moyens financiers que de commencer par une bestiole qui serait un peu moins mythique, peut-être. Donc oui, le mammouth, il est dans le débat aussi parce que c'est un des rares organismes pour lesquels on a beaucoup de données de génome complet, finalement. En dehors de l'espèce humaine, c'est sans doute la seule espèce qui est aussi bien connue parmi les espèces éteintes.
Et ben, concrètement, on a le génome du mammouth qui est connu depuis un an. On a cette technique CRISPR. Comment on fait pour recréer un mammouth à partir de ces deux éléments clés?
Eh bien, comme on n'a pas de cellules de mammouth en état de réaliser un clonage tout bête et méchant, comme on a prétendu qu'on le ferait au début des années 2000, on n'a pas de cellules en état de fonctionner à l'intérieur des mammouths qu'on récupère. Par contre, effectivement, on a pu récupérer des morceaux de leur génome et assembler ces morceaux par nos ordinateurs, ça nous permet de récupérer le génome en entier. Et ce qu'on a en parallèle, c'est qu'on a des éléphants d'aujourd'hui, et ces éléphants, ils ont un génome qui est aussi peu différent du génome du mammouth que notre génome du humain et des différents du génome des chimpanzés, c'est-à-dire très très peu différent. On a quelques dizaines de millions à centaines de millions de différences à l'échelle d'un génome, c'est pas grand-chose. Et donc il suffirait de cibler ces différences et puis de venir remplacer les signatures d'éléphants par des signatures connues désormais donc de mammouths dans leur génome pour espérer avoir produire une chimère en quelque sorte, parce que ce sera pas un véritable mammouth, ça sera un éléphant dont on aura modifié le génome pour le faire mimer celui du mammouth.
C'est un génome Frankenstein en fait.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on enlève des morceaux, on en remet d'autres, et puis on essaie de voir ce que ça donne, avec là aussi une petite part mystique, on n'a pas les éclairs pour ranimer tout ça, mais il y a une petite part de... On joue quand même un peu aux apprentis sorciers, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, c'est-à-dire quel va être le développement embryonnaire de cet organisme qui n'est ni un mammouth ni un éléphant, on n'en a aucune idée, parce que le génome... Il définit certes ce que les gènes peuvent faire, mais ce n'est pas la seule information qui décide comment ces gènes doivent fonctionner.
Donc bientôt quasiment un éléphant finalement, Régis Debray. On va créer une nouvelle espèce, quoi.
Tout à fait, on aurait un mammouth synthétique. Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça, moi.
Quels sont les arguments qui sont mis en avant par ces équipes dans le monde qui sont prêtes à se lancer là maintenant?
Alors toutes ces équipes essaient un peu de nous flouer, c'est ça qui est sans doute le plus dommageable que la technique elle-même. La technique, bon moi je suis pas un grand défenseur, mais ce qui est plus dommageable c'est de nous faire croire qu'on va protéger la biodiversité avec ce genre de méthode de désextinction. Pourquoi est-ce que c'est complètement fallacieux? Parce que on le sait très bien, écologue, biologiste moléculaire, généticien, et que c'est pas en recréant à partir d'un génome connu un individu d'une espèce... qu'on pourra rétablir cette espèce en tant qu'en quantité naturelle. Il faudrait de la diversité génétique, et cette diversité génétique, on ne pourra jamais la recréer de façon artificielle. Et donc, on ne pourra jamais finalement recréer facilement une espèce pérenne. Ce qu'on peut espérer recréer, c'est éventuellement des lignées à l'intérieur d'une espèce qui aurait disparu et qu'on pourrait aller mélanger avec d'autres lignées, pourquoi pas. Mais recréer un mammouth pour lui rendre la vie dans son milieu naturel, ça, à mon avis, c'est du domaine de la fantaisie.
On peut quand même trouver une bonne raison ou deux à mettre un jour au point cette technique, ou selon vous, pas du tout?
De toute façon, la technique en elle-même, elle existe. En fait, il s'agit juste d'utiliser la technique à un autre objectif que d'autres objectifs actuels qui sont peut-être plus louables sur la thérapie génique, sur d'autres modifications génétiques qui peuvent avoir un intérêt agroalimentaire, par exemple, pourquoi pas. Rendre la vie à une espèce éteinte, en soi, évidemment, ce serait un pas extrêmement favorable, mais les moyens financiers qu'il faudrait mettre à disposition, quand on les compare aux moyens financiers dont on dispose aujourd'hui pour essayer d'assurer la préservation des espèces modernes, c'est un peu ridicule. On se dit, finalement, est-ce qu'on se trompe pas d'objectif, quoi? Est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu plus de moyens sur ces espèces qui disparaissent au quotidien et pour lesquelles on fait clairement pas le travail nécessaire, ça, c'est sûr.
On pourrait essayer avec le dinosaure, Régis Debrune, ou pas? On n'a pas assez d'ADN disponible.
Alors, sur les dinosaures, il n'y a pas d'ADN au sens strict. Par contre, ceux dont on dispose aujourd'hui dans la nature, ce sont des oiseaux. Or, les oiseaux sont les derniers dinosaures, entre guillemets. Les dinosaures n'ont jamais disparu, les oiseaux sont leurs derniers représentants, parce que simplement, ils ne ressemblent plus aux dinosaures qu'on connaît, nous, à travers les bouquins de notre enfance. Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est effectivement leur rendre leur aspect de dinosaure, c'est-à-dire leur rendre des dents, leur enlever des plumes, leur rendre des pattes avant, etc., etc. Et effectivement, il y a des tentatives qui ont été faites, là aussi, encore en Amérique du Nord, pour bloquer dans le développement des oiseaux les gènes qui les transforment en oiseaux, en fait, pour bloquer leur développement à un stade plus primitif, entre guillemets, qui les fait ressembler à des proto-dinosaures. En somme, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est rendre des dents aux poules. Donc, les poules, un jour, ont eu des dents. Et voilà,
C'est déjà pas si mal. Merci beaucoup, Régis Debrune, pour cet éclairage. Et puis, Axel, c'est un dossier que vous avez repéré dans les pages de Science. Et nous partons dans un instant retrouver les invités du Club des Têtes au Carré.
We built a house. We tore down. We made some noise. Yeah, we stood our ground. We ran the streets every night and day. We share one key to the very place where our grandma stay. We see them coming from a mile away, but they know.
No Way avec Annie El Khatib.
La tête au carré. Le club.
1, 2, 3. Inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3. Expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu?
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Des explorateurs, un MOOC sur les origines de l'homme, un carnet de sciences dans notre club cet après-midi avec mes invités Catherine Jessu, Mathieu Raveau, Jean-Louis Etienne et Christophe Falguer. Et pour commencer, nous allons tenter de rejoindre l'Antarctique. Jean-Louis Etienne, c'est pas toujours simple hein, les communications avec
non,
le continent blanc.
Non, c'est compliqué,
hein.
C'est loin.
On va faire une tentative avec Vincent Favier qui nous attend sur place. Bonjour à vous, est-ce que vous nous entendez?
Allô, bonjour, je vous entends très bien.
Où est-ce que vous vous trouvez en ce moment, Vincent Favier, et quel est l'environnement qui vous entoure? Racontez-nous.
Alors là, je suis à la base de Cap Prudhomme, qui est à 5 km de la base de Dumont-d'Urville. La base de Cap Prudhomme est une base logistique franco-italienne.
Oui. Vincent, est-ce que vous nous entendez? Parce qu'on a des gros problèmes de liaison, là, ça coupe énormément. Voilà, Jean-Louis Etienne, vous entendez, hein, on a des difficultés de transmission. C'est compliqué d'aller jusqu'au
continent blanc. Oui, c'est compliqué, il faut
continent
pas
blanc,
surtout pas bouger, c'est avec Iridium peut-être. Et des fois, quand on parle, on a tendance à bouger comme ça. Je pense qu'ils essayent de répondre à une question, c'est est-ce qu'avec le réchauffement climatique, les précipitations de neige compensent les pertes de glace? Je pense que c'est ce sur quoi ils vont travailler.
Absolument, avec des conditions qui vont être très difficiles. Vous connaissez cet endroit précis où se trouve Vincent
Favier? Je
ne
suis jamais allé à la base française, non. Ouais. Je connais la calotte, bien sûr, je l'ai traversée, c'est une grande monotonie. Mais le travail qu'ils font, c'est important. Il y a Cryosat, ce satellite qui est là pour les aider, mais effectivement... L'interrogation, c'est ça. Est-ce que le réchauffement climatique, avec les précipitations de neige, peuvent compenser les pertes de glace?
Oui, donc ils seront en zone côtière de Terre Adélie, hein, en particulier. Oui. C'est là qu'ils vont faire ce travail. Et puis, ils vont également étudier l'augmentation du niveau de la mer. Ça, c'est un phénomène qui a déjà été observé en Antarctique. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement confirmer ou non cette hypothèse.
Il y a une augmentation et puis aussi une augmentation de la température de l'eau autour du continent antarctique. Et donc toutes les plateformes qui flottent, hein, qui sont le prolongement des glaciers qui flottent, sont effectivement en contact avec une eau qui se réchauffe.
C'est ça.
Avec une érosion et effectivement des ruptures d'ice shelf, de plateformes qui donnent ces icebergs, effectivement. Et on peut s'attendre avec le réchauffement de l'eau et aussi une montée du niveau à un décrochement d'icebergs beaucoup plus important. Et ce qui se passe, c'est quand vous perdez des icebergs au large, derrière, la calotte a tendance à, avec la gravité, à s'accélérer. Donc c'est le réchauffement climatique sournoisement et commence à impacter l'Antarctique.
C'est ça. Et donc c'est un lieu de notre Terre qui est très observé aussi pour la question climatique.
Ah oui, oui. Ben, déjà, on va dire que les archives du climat sont là, dans les carottes de glace. Donc c'est un lieu extrêmement privilégié.
On arrive à remonter loin, hein, 800 000 ans.
800 000 ans, bientôt 1 million, oui, effectivement. C'est ça, Et donc, on peut suivre, effectivement, ce qu'il est classique de dire, que la Terre, elle a sa vie propre.
Oui.
On voit bien ces alternances, effectivement, sur cette longue période que la Terre a sa vie propre. Et on voit surtout aujourd'hui l'accélération de l'impact de l'homme qui tranche par rapport à ces rythmes qui sont réguliers, ces rythmes du passé.
Oui, alors je crois qu'on a perdu, hélas, à tout jamais, en tout cas pour notre émission aujourd'hui.
J'espère qu'il va bien.
Voilà, Vincent Favier, je suis sûr qu'il va très très bien. Ils vont partir donc le 25 novembre pour cette expédition. Vous souhaitiez réagir, Christophe Alguer?
Oui, non, je voulais dire que c'est à partir de 800 000 ans que les cycles climatiques commencent à devenir des cycles de 100 000 ans, justement, par rapport à la théorie de Milankovitch, qui est une théorie astronomique. Et donc, les cycles climatiques sont maintenant tous les 100 000 ans, avec une alternance de cycles froids et secs et chauds et humides.
Ouais. Ah ben, en tout cas, on va souhaiter bon courage à Vincent Favier. S'il nous écoute, ce sera le départ pour lui le 25 novembre avec cette analyse des précipitations neigeuses. On aurait aimé discuter plus longuement avec lui, mais les communications sont compliquées, donc avec l'Antarctique. Christophe Alguer, vous êtes géochronologue.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce métier, s'il vous plaît?
Bah, à la base, je suis géologue et je m'intéresse plus particulièrement à la période la plus récente, les trois derniers millions d'années, disons, au cours desquelles les hommes sont arrivés.
Ouais.
Enfin, on peut remonter jusqu'à 7 millions d'années maintenant, mais bon,
ouais.
Disons que voilà.
Et vous étudiez quoi alors?
Je m'intéresse à la chronologie des événements de l'évolution humaine, c'est-à-dire je m'attache à fabriquer le cadre dans lequel viennent se mettre tous les éléments de l'évolution humaine.
Ouais. Donc vous dessinez l'arbre généalogique de l'humanité?
Non, je ne le dessine pas. Vous savez, quand il y a une présentation des arbres généalogiques, justement, en ordonnée, ce qu'on a, ce sont des dates, des âges. Moi, c'est ça que je fais.
D'accord. Donc, il y a quand même un petit lien avec...
Il y a un petit lien qui permet de lier des événements, effectivement.
Alors, avec, justement, le Muséum National d'Histoire Naturelle et le Musée de l'Homme, eh bien, il y a ce MOOC qui vient d'être lancé, précisément sur les origines de l'Homme. Alors, moi, je me souviens, quand on arrive au nouveau Musée de l'Homme, il y a ces trois questions qui nous accueillent. D'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Et finalement, ce MOOC, il est autour de ces trois questions.
C'est ça, oui. En fait, il vient en complément de l'exposition permanente qui s'appelle la Galerie de l'Homme et qui tente de répondre partiellement à ces trois questions sur lesquelles le schéma de cette exposition s'est construit.
Ouais. Et alors ces cours en ligne, cours gratuits, cours qu'on peut justement prendre à tout moment, c'est aussi là justement la magie d'Internet qui permet cela.
Voilà.
Quelle histoire au fond vont raconter les différents professeurs qui vont animer ces cours?
Alors la première séquence, c'est les hommes naissent dans un buisson, c'est-à-dire qu'on replace en fait la lignée humaine au sein des autres espèces animales et même végétales. Mmh. Et puis ensuite, une seconde séquence qui va traiter du berceau africain quand même.
Nos origines. Hein.
De nos origines. La troisième séquence va concerner plus particulièrement Homo erectus qui va partir... À l'abordage du monde entier, qui va sortir d'Afrique il y a 2 millions d'années et qui va se répartir en Asie du Sud-Est, en Asie continentale et puis un peu plus tard en Europe. Après, on parlera bien sûr des Néandertaliens, cet autre nous-mêmes, comme on l'a...
Dont nous portons quelques gènes.
Hein. Dont nous portons quelques pourcents de gènes. Ouais. Homo sapiens, qui va peupler définitivement toute la planète.
Donc nous-mêmes, moderne.
C'est ça. Et puis enfin, une description sur les hommes actuels, parce que le Musée de l'Homme aussi porte un message, non seulement sur le passé, mais aussi sur aujourd'hui et sur demain. Ouais. Alors dans le MOOC, on ne parlera pas de demain, on parlera simplement d'aujourd'hui.
Et pourquoi pas demain? Parce que ça nous intéresse, la façon dont on va évoluer, justement. C'est toujours la question qu'on pose, mais on n'a jamais de réponse à cette question-là. Pourquoi? C'est très difficile de faire de la prospective dans ce domaine.
On fait de la recherche, on fait pas trop de prospective.
Il y a pas d'indice là pour parler du futur.
Il y en a peut-être, mais bon, pour l'instant, il faut rester prudent.
Bon, Jean-Louis Etienne.
Oui, je profite d'avoir un spécialiste de l'évolution de l'homme pour lui poser une question. Moi, je m'interroge, quelle était la température centrale de l'homme de Cro-Magnon?
Centrale.
Oui, la température. Nous, on est à 37. C'est très chaud, 37. Ouais. Ça veut dire que la nature a mis le thermostat à 37, et si vous voulez, si on avait 20, par exemple, on mangerait qu'une fois tous les deux jours, on aurait beaucoup moins besoin d'énergie pour se chauffer. Donc c'est une question, parce que quand on vit dehors, on a la température centrale qui descend. Donc si un jour vous avez la possibilité de réfléchir, ça m'intéresse vraiment de voir l'évolution de la température du corps.
Christophe Alguer, vous n'avez pas la réponse tout de suite à nous donner?
Non, pour l'instant... On travaille sur les ossements et malheureusement, on ne peut pas encore donner la température des êtres humains.
Catherine Jessu, vous n'avez pas de réponse, vous, à cette question?
Moi, je parierais pour 37. Et d'ailleurs, il y a des tas d'espèces à poil, des mammifères qui sont à plus que 37. Hein. Ouais. Ouais, les petits, plus on est petit et agile, plus on a une température corporelle élevée. Donc 39 pour des petits rongeurs. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Vous allez parler de l'homme de Denisova?
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'on a aussi des bouts de lui, c'est-à-dire que Néandertal, Denisova et Sapiens se sont connus très de l'homme
manière très proche. Ça a fricoté tout ça quand même.
Bien sûr. L'homme de Denisova qui a donné un code génétique complet à partir d'une phalange.
Alors ça, c'est incroyable. Ouais. C'est les équipes de Sventepebe, justement, qui génétiquement ont permis d'analyser aussi. Hein. Alors ces cours, on peut les suivre. Il faut s'inscrire, comment ça fonctionne? Juste les détails pratiques, là.
Alors, on doit s'inscrire sur la plateforme Solerni, qui est une plateforme utilisée pour ce genre de MOOC. Mmh. Il suffit de s'inscrire, c'est très facile. Et ensuite, on peut rentrer directement. Alors, il n'est pas nécessaire d'être dans un cursus, ça c'est quand même un avantage énorme.
Il n'est pas nécessaire d'arriver à l'heure, parce que c'est à tout moment.
Pas nécessaire d'arriver à l'heure, on peut travailler quand on veut, comme on veut. Et ça permet aussi de toucher un public beaucoup plus large, qui n'a pas forcément l'opportunité de venir visiter le musée de l'Homme.
Exactement, voilà. Ouais. Avec des super profs, hein, comme on pourra le découvrir, mooc-origine-de-l'homme.com pour en savoir plus et pour donc découvrir nos origines grâce au muséum et au musée de l'Homme. Jean-Louis Cormier, si tu reviens.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans ce club, il y a Jean-Louis Etienne pour ce livre Inventer sa vie qui paraît aux éditions Le Passeur. Jean-Louis Etienne, très préoccupé par les questions de température corporelle, hein, qui a posé une colle à notre invité tout à l'heure.
C'est une interrogation.
C'est ça. Quand vous êtes rentré du pôle Nord ou de vos différentes expéditions, d'ailleurs, vous aviez une température aussi corporelle qui avait baissé?
Oui, c'est pour ça que je l'évoque.
Vous le disiez hors antenne. Hein,
oui, ma température au repos était de 35,5. Donc, les tests que j'avais faits, effectivement, en chambre froide, montraient que je consommais beaucoup moins d'oxygène, c'était beaucoup moins coûteux. Ouais. Et je dois dire que j'avais une activité tout à fait normale.
C'est vrai, oui.
Et ça a duré longtemps. Ça s'appelle une acclimatation de type hypothermique, donc on baisse le thermostat.
Ouais.
Donc, le maintien d'une activité biologique est moins coûteux en énergie. Et ça a dû durer un an, à peu près une année.
Ah, quand même ?
Oui, ces types d'acclimatation, comme l'hypoxie d'altitude, c'est quelque chose qui se remet petit à petit.
Ouais. Vous êtes resté à 35 degrés pendant un an.
Je m'en suis pas occupé.
Non, bien sûr.
Ça s'est fait tout seul.
J'avais jamais entendu parler de ça.
Il y a des plongeuses qui en Corée ou au Japon, qui plongent sur des éponges, et en fin de journée, elles sont à 33.
Oh là là.
Mais elles sont habituées, tout notre système biologique se cale pour fonctionner à... à basse température.
Alors, Inventer sa vie aux éditions Le Passeur, donc c'est un abécédaire sur les mots, hein, on le disait tout à l'heure, qui résonnent avec votre vie. Ils sont nombreux. Comment est-ce que vous avez fait le choix? Ça a été au gré de vos souvenirs, au fond?
C'est une. Les éditions Le Passeur m'avaient demandé un ouvrage. Et j'étais un peu assez avec un livre, il y a un début, une fin, un milieu. Donc, il m'a dit si vous faisiez un abécédaire. J'ai trouvé intéressant, en fait, de réfléchir, parce que tous les mots ne sont pas remplis, c'est pas un dictionnaire, vous voyez. Donc, c'est une idée qui vous vient et qui commence par une lettre. Et donc, ça commence par A, hommage, etc. Mais, d'une manière générale, ce qui m'intéresse, c'est dans le titre Inventer sa vie, c'est de stimuler, en fait. De stimuler. Moi, j'ai un parcours assez onduleux. Hein. J'ai fait un CAP tourneur-fraiseur, vous voyez, avant de faire médecine, puis chirurgie, puis les expéditions, etc. Et je sais qu'on a tous des potentiels que l'on ne met pas à l'œuvre, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse.
Ouais. En tout cas, vous dites que vous avez atteint la plénitude d'exister à l'âge de 40 ans, à la fois une plénitude mentale et physique. Hein.
Dans un instant précis, c'était l'arrivée au pôle Nord. Ça, l'arrivée au pôle Nord, c'est... Je m'y suis acharné pendant 2 ans, j'ai échoué en 85, j'y suis revenu. J'avais ce sentiment que ma vie devait passer par le pôle Nord. C'était une nécessité, c'était un langage personnel. J'ai persévéré et l'arrivée au pôle Nord, c'est une libération, vous voyez, de ce fardeau que l'on traîne avec un projet qui était lourd. Et donc j'ai essayé de décrire ce qui est arrivé. C'est vrai que j'ai eu ce sentiment que toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. Vous voyez, cette espèce de...
Ça parle à la biologiste qui est Catherine Jessu, hein, elle a souri.
Le bonheur des cellules.
Le bonheur des cellules. Ça s'étudie, ça, ou pas, en biologie, Catherine
Jessu? Pas encore, mais c'est une piste. Hein.
Une espèce de stabilité.
Mais c'est magnifique comme sujet d'exploration, quand même. Hein.
Vous voyez, une homéostasie heureuse, on va dire, hein, pour plagier ce qui se passe à l'heure actuelle. Ouais. Mais donc, c'était un moment d'une libération, un moment très important. Et puis, c'était aussi un moment qui a orienté ma vie. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ça va être ma vie. Et donc, j'ai commencé à continuer à devenir organisateur d'expéditions lointaines.
Ouais. Donc, à 40 ans, vous avez vraiment commencé votre vie, c'est ce que vous voulez nous
dire? J'ai eu des vies précédentes qui m'ont intéressé. J'ai été passionné par la chirurgie. J'évoquais que j'étais tourneur-fraiseur, c'est ma première formation. J'ai fait un CAP, puis après, j'étais orienté vers le bac technique. Et en chirurgie, j'ai retrouvé le geste manuel. J'étais passionné par la chirurgie, notamment la chirurgie orthopédique, vous voyez. On utilise les mêmes outils, des vis, des plaques, des broches, on fait des gorges. Donc c'est un travail manuel sur l'os et l'articulation. J'ai été passionné par ça. Et c'est une envie profonde de faire des expéditions. Et la médecine m'a ouvert, a été mon passeport pour faire des expéditions précédentes avant celle-là au pôle Nord.
Ouais. Et le 9 décembre prochain, vous aurez 70 ans, Jean-Louis Etienne, et c'est vous gardez vrai. Toujours, c'est ce que vous écrivez, le même esprit invariable de la jeunesse.
Ben, si vous voulez, j'ai pas l'impression que l'âge avance, sauf le matin quand je me regarde dans la glace de la salle de bain, je dis, bon sang, t'as pris un coup. Mais je trouve que l'âge, on va dire, de création, l'âge d'envie de faire les choses, je trouve que si on l'entretient, comme je le fais avec... Alors on me dit, tu as la passion, c'est facile, mais la passion, vous savez, c'est un peu comme le feu. Si vous mettez pas des bûches, ça s'arrête.
Oui.
Et les bûches ne sont pas tout le temps devant la porte du jardin, quoi, voyez. Donc de temps en temps, il y a des moments de doute. C'est la persévérance, en fait. Ouais. C'est une invitation à persévérer.
Il semble, et c'est la vertu aussi de cet abécédaire, qu'il y ait des ingrédients qui entretiennent justement cette vitalité-là qu'on sent bien chez vous. Et l'amitié, par exemple, en fait partie.
Oui, l'amitié, les rencontres. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Le père Jaouen, avec qui j'étais médecin, on partait en mer avec des enfants en difficulté. J'ai passé un an avec Éric Tabarly.
Bien sûr.
Donc ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Tabarly était quelqu'un qui dirigeait par le silence. Il avait une présence incontestable. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Il y a des rencontres et j'essaye, si vous voulez, dans les projets, de ne jamais rester assis sur le fauteuil. J'ai des cartons de chaussures pleines de business cards, vous voyez, qu'on distribue à la fin. Et quand ça avance pas, j'essaye de, tous les soirs, d'en sortir une au hasard ou deux. Je dis, tiens, celui-là m'a pas répondu, machin. Ouais. Et je lance une bouteille à la mer. C'est un peu comme ça que, en fait, je me dis, peut-être demain j'aurai une réponse. Vous voyez, c'est entretenir l'envie, quoi.
Ouais. Vous dites qu'aimer est un défi plus difficile au fond que de partir en expédition.
En ce qui me concerne, je peux aimer, bien sûr, mais disons que la vie que j'ai eue, où j'ai partagé de la générosité, j'ai partagé de l'amour, mais j'ai pas partagé ma vie. Vous voyez la différence? J'ai pas partagé la permanence de ma vie. J'ai toujours eu cette idée de créer des expéditions, de dessiner, d'inventer des nouveaux outils pour explorer. J'ai vu une formation de technologie et je suis resté Je dessine des outils, un nouveau bateau, par exemple. J'ai dessiné Antarctica au début. Enfin, c'est pas moi qui l'ai achevé, mais qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui fait un parcours remarquable. J'ai construit plein de choses comme ça.
Ouais.
Et je suis un bâtisseur.
Il y a du regret dans votre voix, non?
Non. J'ai deux frustrations, si on peut dire. Le rugby. Mmh. J'étais demi de mêlée au Castres Olympique en junior et j'avais un problème de santé. J'ai dû arrêter. C'était une terrible frustration.
Ouais.
Et l'autre chose, j'étais, comme j'ai évoqué, passionné par la chirurgie. Et voyez, quand je coupe un poulet, je passe par les aponévroses, je désinsère les articulations avec délicatesse, je refais ce geste, ça paraît idiot, mais j'adorais cette approche, si vous voulez, cette exploration anatomique, j'ai beaucoup aidé. Ouais. Donc ça reste des frustrations, mais ma vie n'est pas une frustration, c'est quelque chose que... J'ai fait des choix,
ouais.
J'ai abandonné des choses, j'ai abandonné une carrière qui pouvait être universitaire à un certain moment. Quand Tabarly m'a envoyé cette lettre, j'étais assistant à la fac, et j'aurais pu continuer une voie universitaire. J'ai dit non, j'ai envie de partir, j'arrête. Quoi.
Ouais.
Donc il y a des choix à un moment donné.
Jean-Louis Etienne, il y a un autre mot qui est là dans votre livre au tout début. Elle a été assez l'anthropocène. Mmh. Ça va parler également à Christophe Felger, parce que c'est une nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes entrés et dont l'homme est responsable, Jean-Louis Etienne.
Ben, donc vous en parlerez plus que moi, mais effectivement on cherche la trace qui fait qu'à un moment donné on dit tiens, ça c'est la marque de l'homme, une trace indélébile. Mais vous pouvez en parler certainement.
Christophe Felger, ça a commencé quand alors? Parce que c'est toute la question aujourd'hui, c'est de savoir quand commence l'Anthropocène. Hein. Est-ce que c'est il y a 3 millions d'années ou est-ce que c'est il y a quelques dizaines d'années avec les premiers essais nucléaires?
Ah, ça c'est...
C'est ça la trace qu'on a retenue, je crois.
Oui, hein. C'est la trace qu'on a reconnue. Non, récemment, on a retrouvé des outils taillés à 3 millions 300 000 ans qui ont remis un petit peu en question l'équation Homo habilis fabriquer des outils à 2,6
millions. Ouais. Et il y a l'Australopithèque avant qui a fait
donc
des choses.
Maintenant, à 3 300 000 ans, il n'y a pas d'Homo habilis encore. Donc il y a d'autres hominidés qui peuvent tailler des outils. Donc, est-ce que l'Anthropocène commence quand on commence à tailler des outils? Peut-être.
Ouais. Voilà. Et puis, la question reste ouverte.
Il y a également des faits géologiques. Mm-hmm. Jusqu'à présent, la période du Quaternaire commence à 2,6 millions. À un moment donné où, paléomagnétiquement, il y a une grande inversion, il y a des faunes qui sont éteintes et qui se renouvellent. Homo habilis apparaît, donc ça, c'est maintenant, c'est un peu remis en question, mais très récemment. Et demain, on peut trouver des découvertes qui vont tout remettre en question.
Ouais. C'est soit la main de l'homme, soit une trace sur l'environnement qu'il laisse plus récemment, effectivement. Ouais.
Beaucoup de souvenirs, évidemment, hein, au fil des pages, vos grandes expéditions. On se souvient tous de Clipperton, c'est un nom qui a beaucoup marqué. Hein. Et on a beaucoup d'images aussi autour de Clipperton. Mmh. On vous revoit sur cette île du Pacifique, abandonnée de tous avec ses oiseaux.
Ben oui, c'est un nom anglais, mais c'est une île française.
C'est,
hein. C'est un petit anneau corallien avec un lagon au milieu.
Vous êtes resté combien de temps
4
là-bas?
4 mois, avec beaucoup de chercheurs, d'ailleurs du muséum, qui sont venus, qui se sont succédés. On peut dire que chaque espèce a été visitée par son spécialiste.
Ouais.
On avait un bateau qui faisait l'aller-retour entre Acapulco et Clipperton. Clipperton, aujourd'hui, est de nouveau sur la sellette pour essayer de faire une aire marine protégée autour de cet atoll français du Pacifique.
Ouais. Et c'est difficile, justement, de créer des aires marines protégées?
C'est un peu compliqué, et pas que moi, mais en fait, on soutient l'idée. Ouais. C'est fondamental qu'il y ait des nurseries tranquilles, de manière à ce que les espèces puissent se reproduire, et partant de là, elles vont essaimer et donneront, si vous voulez, de la pitance aux pêcheurs. Mais il faut vraiment qu'il y ait des zones de reproduction tranquilles.
C'est l'occasion de croiser une mouette ivoire aussi dans votre ouvrage, Jean-Louis Etienne.
Oui, la mouette ivoire, elle est magnifique. La mouette ivoire, comme son nom l'indique, elle est ivoire, elle est immaculée. Et donc, quand vous passez du temps dans ces régions où vous vous déshumanisez au sens où j'ai le sentiment que les animaux ne vous perçoivent plus comme un humain. Vous voyez ce que je veux dire? On se fond avec le lieu, et il y a une relation avec les autres espèces qui devient un peu naturelle. Ils sont curieux de vous sans crainte. Et cette mouette ivoire, effectivement, il restait un moment à côté de moi. Donc, une espèce de dialogue qui s'installe à l'intérieur,
très
si
joli,
vous voulez.
Très joli. Et l'observation des animaux, on peut dire que vous avez eu le temps d'en faire, avec les chiens en particulier. Hein. Vous avez beaucoup observé ces bêtes.
Les chiens?
Oui.
Ben, j'ai passé deux mois pour traverser le Groenland avec un attelage de chiens. Et puis après, 7 mois là, en Antarctique. Les chiens, c'est des compagnons, je ne peux pas en parler des heures, les chiens, parce que c'est... quand vous vivez avec eux, c'est exactement comme un berger avec ses moutons. Il les connaît, et on les connaît, les chiens. On sait comment ils étaient deux par deux. On connaît leur nom. Et quand vous dites bon chien, on le disait en anglais parce qu'on parle en anglais, good dog chinook, par exemple. Ouais. Il y a les autres qui se retournent et puis il faut leur dire oui, t'es un bon chien toi aussi. Donc il faut les encourager, il faut leur parler sans arrêt. C'est une expérience chaleureuse et intéressante. Oui.
Allez, encore deux mots, réaliser l'impossible, persévérer, voilà ce qu'on peut lire aussi dans
cette persévérer, ABC. Mais ça me paraît le... Quand on me demande, est-ce que vous avez un message? Quand vous êtes sur la scène, vous êtes le héros de service, vous voyez, donc on demande au héros, qu'est-ce qu'il a comme message, comment il a fait tout ça? La persévérance, c'est ce qui me paraît le résumé. J'ai résisté aux tentations de l'abandon au bon moment, vous voyez. Et il faut comprendre que dans la vie, on progresse par seuil. Il y a des moments où on est passionné par quelque chose, on avance, on découvre, c'est bon, mais à un moment donné, pour aller plus loin, il faut travailler. Et puis il y a la concurrence, et effectivement, c'est là qu'il faut tenir et pas se dire, finalement, c'est trop compliqué, je vais essayer autre chose. Vous avez créé une frustration. Vous voyez, il faut réaliser les choses qui vous portent à un moment donné, vous passez un seuil et hop, vous progressez. Donc c'est persévérer, c'est la seule chose qui me paraît... le moteur essentiel pour arriver à se réaliser.
Bon, on va finir par ces mots-là. Hein. En tout cas, c'est un joli point final pour cette discussion, Jean-Louis Etienne, autour de ce livre, donc « Inventer sa vie », qui paraît aux éditions Le Passeur. Vous restez avec nous dans un instant. On va découvrir la nouvelle revue du CNRS. Elle s'appelle « Le Carnet de sciences ». C'était Donna Summer.
La tête au carré. Le club.
Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des petits vertiges.
Oui, quelques vertiges. Oui, je crois que en plus, je souffre d'une baisse d'audition dans mon oreille droite. Non, mon oreille gauche. Enfin, ma gauche, enfin, je sais plus quoi. Ou ma gauche ou ma droite. Enfin, je ne me souviens plus.
Eh bien, on va voir ça.
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et nous fêtons l'arrivée d'une nouvelle revue scientifique lancée par le CNRS. Il s'agit des carnets de sciences. Mathieu Ravot, vous en êtes le rédacteur en chef. Et puis Catherine Jessu, vous en signez l'un des articles sur le siècle du vivant en tant que directrice de l'Institut des sciences biologiques du CNRS. Mathieu Ravot, d'abord, l'idée c'est quoi? C'est d'ouvrir les laboratoires du CNRS au grand public, de nous faire partager un petit peu le grand monde de la recherche?
C'est exactement ça. C'est l'idée, c'est de montrer les coulisses de la recherche. C'est une envie, une volonté du CNRS qui existe depuis depuis quelques années. Ouais. Une envie de montrer la réalité du travail des chercheurs, qui est un travail de longue haleine sur des années, parfois sur des décennies, qui est fait d'expérimentation, de remise en question, de débat parfois au sein de la communauté scientifique. Donc ça, on a vraiment envie de montrer cette réalité. Et puis il y a aussi une volonté de prendre de la hauteur par rapport à l'actualité scientifique. Je crois que les résultats aujourd'hui, quelles que soient les disciplines, sont de plus en plus compliqués à comprendre de manière isolée. Et nous avons envie de leur redonner du sens, en quelque sorte, en les replaçant dans un contexte plus large, en explicitant vraiment les enjeux, les éventuelles applications, encore une fois, les débats, s'il y en a. Nous, on fait le constat tous les jours qu'il y a une demande vraiment qui est forte des gens pour la science, à travers toutes nos actions.
Et vous avez raison, parce qu'on le constate tout le temps, effectivement.
Le succès de votre émission en
est
une autre
preuve. Je ne sais pas ça pour parler de la tête au carré, mais c'est vrai qu'il y a une vraie demande et que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans les labos, quoi.
Ah, complètement. Nous, à travers les actions, on le voit sur à travers les réactions des gens sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on publie. On le voit quand on rencontre les gens qui nous disent qu'ils sont vraiment en attente d'une demande générale et du CNRS aussi, d'un éclairage.
Et vous donnez à voir la science, parce qu'il faut aussi savoir que le CNRS, c'est aussi des images, et vous avez un fonds très important, donc vous donnez à voir aussi la science de cette façon-là.
Tout à fait. On a un fonds photographique au CNRS qui est assez fascinant. On a vraiment des trésors dans les archives, on a des reportages sur des recherches contemporaines qu'on a vraiment envie de partager. On a vraiment envie de faire passer le message que la science est visuelle, elle peut être très belle dans certains cas, et ça permet aussi de montrer différentes réalités de la recherche. La réalité du laboratoire. Par exemple, on a un cahier photo sur le laboratoire Kastler-Brussel.
C'est de la physique, ça.
C'est de la physique. C'est un laboratoire qui a donné 3 prix Nobel de physique à la France. Voilà, donc là, on est dans des expériences.
Avec des très belles photos. Hein. Ça, c'est un diaporama, papier glacé, vraiment très chic.
Oui, des photos très belles, avec des lasers, vraiment beaucoup de couleurs, tout ça. Voilà, c'est une réalité de la recherche. Et puis, on a un autre cahier photo sur une autre réalité, vraiment un travail de terrain qui se déroule dans des forêts méditerranéennes, où les chercheurs de l'IMBE, en fait, essayent d'étudier la réaction des forêts méditerranéennes au changement climatique.
Ouais. En tout cas, bravo, parce que vous donnez en plus à voir la diversité, la variété de la science, puisque vous allez vraiment dans tous les domaines de la science, aussi bien les sciences humaines que les sciences dures. Il y a une rencontre entre Arthur Avila, par exemple, et Cédric Villani pour parler de mathématiques. Mm-hmm. Mais vous vous intéressez également à ces recherches qui sont menées autour des attentats, par exemple, avec un historien et un spécialiste de la mémoire.
Denis Péchanski et Francis Eustache, oui, tout à fait, qui travaillent sur la construction de la mémoire autour du 13 novembre. Oui. Cette diversité dont vous parlez, je crois qu'on a vraiment essayé de refléter la richesse tout simplement des recherches qui sont menées au CNRS, parce que le CNRS a ceci d'exceptionnel, qu'il mène des travaux dans tous les domaines.
Catherine Gessu, justement, vous êtes directrice de l'Institut des sciences biologiques donc au sein du CNRS, et vous signez un article sur les nouveaux territoires dans les sciences du vivant. Vous êtes scientifique et du coup un peu journaliste aussi pour ces carnets de sciences.
Eh ben oui, voilà. Ouais. Je ne m'attendais pas à prendre ces fonctions de journaliste, étant donné qu'effectivement je suis chercheur et je dirige l'Institut des sciences biologique du CNRS, c'est-à-dire qui regroupe l'ensemble des laboratoires de biologie du CNRS.
Ouais. Donc c'est un exercice nouveau aussi pour vous, justement, de vous soucier du grand public et d'écrire vos papiers autrement,
c'est peut-être un exercice nouveau pour moi, mais je pense et je pense que toute la communauté des chercheurs est convaincue de ça, c'est que non seulement il y a une demande, mais le chercheur a un devoir, un véritable devoir de communiquer avec la société, avec les citoyens, pour expliquer ce qu'on fait et quelles sont nos découvertes et quel sens ça fait. Donc je pense que c'est incontournable pour arriver à faire de la bonne recherche dans un grand pays. Il faut bien évidemment la curiosité, la motivation des chercheurs, mais il faut aussi une volonté politique et un consensus social.
Et puis les citoyens financent la recherche aussi.
Absolument.
Même,
hein.
Donc vous
absolument.
Avez un devoir aussi à
et
ce niveau-là.
Il faut un consensus social, et il faut que les gens comprennent ce qu'on fait et le droit de nous interpeller, mais surtout qu'ils comprennent, qu'on leur explique.
Alors surtout dans ce domaine du vivant, parce que là, effectivement, le siècle du vivant, alors c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire dans plein de domaines, hein, dans le domaine de la génétique, dans le domaine des planètes, on vit des choses extraordinaires. Mais alors dans le domaine du vivant, la biologie, on a évoqué CRISPR-Cas9 tout à l'heure rapidement, ces outils aujourd'hui moléculaires, ils sont absolument fascinants et ils bouleversent totalement la façon de travailler.
Exactement, exactement. Donc, il est clair que les sciences du vivant, bon, depuis qu'elles existent, depuis longtemps, depuis Aristote, ont vécu différents tournants, et on est à l'un de ces tournants depuis le début de ce siècle.
Alors, faites-nous comprendre en quoi. Qu'on vit là en ce moment?
Oui, ce qu'on vit en ce moment, c'est dans le champ des connaissances des sciences du vivant, des très grandes découvertes qui sont sûrement dues aux avancées technologiques dont vous faisiez, vous citiez un des exemples.
CRISPR-Cas9.
Oui, un des exemples. Donc, par exemple, pour ne citer que quelques exemples, parce que ce sont vraiment actuellement des dogmes qui s'effondrent, des visions qu'on avait qui s'effondrent. Il y a, par exemple, l'étendue insoupçonnée de la biodiversité qu'on découvre, par exemple, à la faveur de grandes expéditions comme Tara, entre autres, et notamment la biodiversité en matière de micro-organismes, d'êtres microscopiques, unicellulaires, auxquels on n'avait pas accès avant, parce qu'on ne les voyait pas, simplement. D'ailleurs, on ne les voit toujours pas, mais on voit leur génome, donc on sait qu'ils existent. Et c'est absolument énorme.
Qu'est-ce que ça bouleverse, au fond, alors, le fait de découvrir ces micro-organismes autour de nous?
Ça bouleverse vraiment la notion de vie, notamment, par exemple, avec ces micro-organismes qui vivent dans des milieux extrêmes, on les appelle des extrémophiles, des milieux dont on avait dit, dont on disait jusqu'à peu, qu'ils étaient impropres à la vie.
Oui.
Ils sont à peu près partout sur la Terre, il y a des êtres vivants qui ont une responsabilité énorme dans l'équilibre planétaire du vivant, que ce soit les chaînes alimentaires, le captage du CO2, etc. Donc ça, c'est vraiment pas du tout la vision qu'on avait. On connaissait les grosses choses, mais on ignorait l'étendue de toutes ces formes microscopiques qui pullulent partout, y compris dans notre intestin, exemple.
Parce que ça, c'est une autre évolution dont on parle beaucoup, le micro. Par exemple.
Ça fait partie, je dirais, de cette découverte de l'immensité, véritable immensité, des êtres microscopiques sur la planète. Il y en a partout, il y en a dans notre intestin
C'est un autre regard que l'on pose, par exemple, sur les bactéries, qu'on a souvent tendance à dire que les bactéries sont nocives pour nous, qu'elles engendrent des maladies particulières, alors qu'au contraire, c'est des alliés dans la plupart des cas.
C'est-à-dire qu'on voit, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit beaucoup les objets vivants qu'on étudie par rapport à l'homme. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? La biologie,
c'est une
science qui se dégage de cette contingence.
C'est pas le bien et le mal.
Pas ce qui est bon pour l'homme et ce qui est mauvais pour l'homme. C'est le vivant, la vie sur notre planète. Et donc effectivement, ce monde des bactéries, c'est une erreur fabuleuse de le voir comme assimilé à des pathogènes. C'est complètement fou. C'est des êtres vivants hyper important à l'échelle générale. Puis il y a d'autres endroits de bouleversement, bien évidemment. On a un petit peu parlé de génétique. Donc quand on récapitule, quand on essaye de comprendre les lois de filiation des êtres vivants, l'évolution en quelque sorte, on avait longtemps vu ça à travers des mutations de gènes. Ouais. On réalise l'importance des transferts de gènes d'un individu à un autre, des symbioses, du parasitisme, qui sont visiblement des créateurs d'innovation et des moteurs extraordinaires et dont on n'avait pas du tout perçu l'importance.
Bon, ben voilà quelques exemples.
Oui, parmi et il y en a tellement d'autres.
Parce qu'il y en a beaucoup, mais vous les évoquez brillamment dans ce dossier sur le siècle du vivant. Voilà, donc les carnets de sciences du CNRS qui sont donc en kiosque au prix de 12,50 €. Et puis tiens, puisqu'on parle du CNRS, n'oubliez pas le rendez-vous donc qui est donné demain samedi avec le forum, la nouvelle édition. Une journée d'échange. Ce sera à Marc-en-Barœul, si vous habitez dans le Nord, pour rencontrer, échanger, débattre avec une quarantaine de chercheurs qui seront présents autour des grandes découvertes de l'année. On va parler, par exemple, mais entre autres, des ondes gravitationnelles ou encore de Bruniquel, la plus ancienne grotte habitée du monde. Vous pourrez également assister à des démonstrations d'équipements scientifiques. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Vous aurez tous les renseignements sur le site du CNRS. C'est demain samedi pour le forum à Marc-en-Barœul. Merci beaucoup à tous. Passez un très bon week-end. Merci d'être passé par la Tête au carré. Merci à Gaël Braouzek qui a assuré la technique. Dans un instant, vous retrouverez Affaires sensibles avec Fabrice Drouel. Le sujet de la fiction du vendredi sera consacré à Jean-Michel Basquiat. Passez un très bon week-end et à lundi, nous parlerons de l'asymétrie dans le dossier.